CFM, le mag, tous les jours,
12h, 12h30.
Le Villefranchois, un journal, une semaine, un autre regard. Le Villefranchois, l'info du Quercy et du Rouergue. En kiosque tous les jeudis.
Allez, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, édition du magazine d'actualité en CFM Villefranche, édition de ce jeudi 12 mars, une édition, première partie que je partage avec Éric Lachon. Salut Éric.
Bonjour David.
Chef d'édition, journaliste au Villefranchois, notre traditionnel rendez-vous tour d'horizon des titres qui font l'actualité à l'occasion de la parution du jour de notre hebdomadaire Le Villefranchois. Et on commence aujourd'hui avec l'info de la semaine.
L'info de la semaine concerne tous les propriétaires de bâtiments dans la Bastide, puisqu'en effet, l'aide à la rénovation de l'habitat va prendre un sérieux coup d'accélérateur grâce à une batterie de mesures que va proposer la municipalité afin donc d'aider à la rénovation de l'habitat, et ce, quel que soit son niveau de revenu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, à partir de maintenant, 100% des propriétaires sont concernés par les aides que sont susceptibles de leur apporter les caisses de la municipalité avec des taux de subvention allant environ de 25 à 35%. De quoi s'agit-il ? Eh bien, en fait, tous les travaux, que ce soit économie d'énergie, plomberie, toiture, menuiserie, quel que soit le corps de métier qui intervient chez vous, eh bien, vous pouvez bénéficier donc de ces aides à condition de faire intervenir trois corps de métier au moins. Voilà, c'est la condition, c'est-à-dire que c'est pour aider, pour avoir une globalité au niveau de la rénovation de l'habitat, et bien sûr de faire appel à des professionnels pour mener à bien ces travaux. C'est le cas de Marianne Angeliti qui a accepté de témoigner en étant donc bénéficiaire de ce dispositif municipal et qui a, grâce à ses aides, a fait diminuer le montant de sa facture de 12 000 euros, hein, puisqu'il y avait 40 000 euros de travaux. Elle a reçu 12 000 euros de subvention. Vous voyez, ça peut aller relativement vite en termes de chiffres. Et voilà, tous les détails sont exposés dans notre édition. Et puis, on vous renvoie, bien sûr, vers les services de l'urbanisme qui seront, bien sûr, plus amènes de vous renseigner dans le détail.
Allez, on poursuit avec le rendez-vous de la semaine.
Le rendez-vous de la semaine, c'est évidemment l'ouverture de la pêche à la truite. Vous savez, si vous avez des pêcheurs dans votre entourage, que c'est attendu comme un grand événement, le grand événement de l'année pour les pêcheurs. L'ouverture, c'est l'occasion de renouer avec les cours d'eau aveyronnais, aller taquiner la truite sur l'Alzou ou dans les petits ruisseaux qui sont nombreux dans notre belle région. Donc l'association de pêche villefranchoise qui compte 1200 adhérents, hein, c'est pour vous dire un petit peu l'engouement que génère cette activité. Eh bien, l'association annonce des conditions d'ouverture idéales, puisque l'été dernier, il a beaucoup plu. Le phénomène des basses eaux a été évité, c'est-à-dire quand les cours d'eau sont trop bas, l'eau a tendance à chauffer, il y a une surmortalité au niveau des poissons. Eh bien là, le fait qu'il y ait eu beaucoup d'eau tout l'été, eh bien on s'achemine logiquement vers une population qui a beaucoup moins souffert et qui est détruite, dites sauvages, qui sont plus nombreuses. Comme si ça ne suffisait pas au bonheur des pêcheurs, l'association a également lâcher de nombreuses truites d'élevage qui sont là pour grossir les bourriches des pêcheurs le jour de l'ouverture. Hein. D'ailleurs, elles sont très bonnes, même s'il s'agit de truites d'élevage. Et donc, c'est vraiment un événement qui est préparé depuis déjà plusieurs semaines. On s'aperçoit que dans les boutiques d'articles de pêche, eh bien, il y a beaucoup de monde. On renouvelle le matériel, on achète les appareils, les équipements. Bref, il y a vraiment toute une tradition autour de cette ouverture de la pêche à la truite. Donc, nous vous présentons tous les éléments, y compris les éléments qui vous permettront de vous acquitter de la carte de pêche et donc de pouvoir participer à cette ouverture de la pêche à la truite.
Allez, c'est la revue de titre, l'essentiel de l'actualité présentée par Éric Lachon. On poursuit avec le succès de la semaine.
Le succès de la semaine, c'est incontestablement la conférence qu'a tenue Daniel Daniel Keller, donc grand maître du Grand Orient de France, qui était vendredi dernier à la salle des fêtes de la Madeleine pour présenter une causerie sur le thème le franc-maçon de la cité. Les organisateurs ont été un petit peu pris de court parce qu'ils avaient prévu 150 chaises dans la salle de la Madeleine, estimant que ce serait déjà un beau succès si jamais ils arrivaient à les garnir toutes. Mmh. Eh bien, il a fallu aller chercher d'autres, et puis encore d'autres, et puis la fin, beaucoup de personnes se sont retrouvées debout pour écouter le grand maître de cette obédience maçonnique évoquer les grands enjeux de notre société, les apports de la maçonnerie dans les débats et des grandes avancées humanistes de notre histoire. C'était littéralement passionnant. Daniel Keller est coutumier de ce genre d'exercice, hein. Ça se voit, ça s'entend, voilà, c'est quelqu'un qui est à l'aise et qui a de suite captivé son auditoire. Ça a été suivi de nombreuses prises de parole, de questions auxquelles le grand maître du Grand Orient de France a répondu sans détour. Les francs-maçons et les affaires, les francs-maçons et la politique, enfin bref. Et vraiment, il a su mener avec brio cette conférence qui, je crois, aura marqué nombre en tout cas tous les participants qui étaient en sont ressortis enchantés.
Allez, on poursuit avec la polémique de la semaine. C'est la revue de titre présentée par Eric Lachon.
La polémique de la semaine porte sur le contrat de ville. Vous savez que il y a actuellement en cours, dans le cadre de la politique de la ville, l'élaboration d'un contrat qui va permettre aux quartiers prioritaires, que sont la Bastide et le Tricot, d'accéder à un certain nombre de subventions et de financements pour mener à bien des actions pour le développement de ces quartiers. L'association citoyenne Bastide fait partie du pool qui réfléchit à l'élaboration de ce contrat. Mais les dirigeants de cette association poussent un coup de gueule cette semaine en estimant que pour eux, les conditions de cette réflexion ne sont pas favorables parce que ils sont consultés non pas sur le diagnostic, puisque le diagnostic, c'est de là où on part, hein, par rapport au truc, mais sur les actions. Alors, ils auraient voulu être consultés en amont sur le diagnostic, estimant qu'ils avaient des choses à dire et que ce n'était pas la municipalité. Bon, alors, le maire, nous avons interrogé le maire. Le maire reconnaît qu'effectivement, il y a bien une sorte de petite précipitation dans la mise en place de ce contrat de ville, mais il fait valoir le fait que d'ici la fin juin, ce contrat doit être signé, c'est la loi. Sinon, on perdra le bénéfice de ces quartiers prioritaires. Donc, il estime que le diagnostic, tout le monde est à même de le faire. Hein, paupérisation, délabrement de l'habitat. Enfin, bref, voilà, problème de délinquance, problèmes sociaux divers et variés. D'ailleurs, l'association reconnaît que nombre des points évoqués dans le diagnostic présenté par la municipalité sont ni plus ni moins que ceux qu'eux-mêmes font comme constat. Alors on va dire que c'est un peu une question de susceptibilité, de préséance, d'association. En tout cas, citoyen a prévenu, ils ne souhaitent pas servir d'alibi à la municipalité. Ils veulent pas que ce contrat de ville tout ficelé entre guillemets arrive sur la table avec le tampon citoyen Bastide qui lui apporterait une certaine caution. Voilà. Donc puis faut pas oublier qu'on est en période d'élection départementale et que il peut y avoir aussi quelques formes de pression exercée sur la politique de la ville et à travers le maire, peut-être toucher aussi un des candidats à ces élections qui est Laurent Tranier et qui s'occupe comme par hasard de la politique de la ville.
Oh, ils font pas de politique, hein, citoyen Bastide.
Ça se saurait.
Allez, on poursuit avec les infos politiques de la semaine, justement, les départementales, je l'imagine.
Alors, les infos politiques, évidemment, les départementales qui sont, on est à J-10, hein, ouais. du premier tour. Les états-majors continuent à nous abreuver de communiqués et de conférences de presse. Du côté de Laurent Tranier, c'est la santé qui fait l'objet de d'un article hein, qu'il a donc il a fait une conférence de presse sur le thème de la santé et notamment de l'action qui a été la sienne et celle de Colette Lefebvre dans l'ouverture de l'école d'aide-soignante, en précisant que ce succès remporté par l'association qu'il dirige eh bien pouvait les encourager pour la suite et effectivement continuer à œuvrer à l'ouverture d'une école d'infirmières. Du côté de Éric Cantournet, eh bien on parle de services publics. Les propositions d'Éric Cantournet, c'est de faire une sorte des maisons de l'État et des services publics dans l'actuelle sous-préfecture, qui n'occuperait qu'un des services donc de cette maison, puisque le bâtiment appartient au conseil général, donc il s'estime compétent en tant que conseiller général sortant pour proposer que cette maison des services puisse accueillir, outre la sous-préfecture, notamment la sécurité sociale, qui pourrait déménager et faire la place pour la construction d'un parking sur la place Lescure. Du côté de Marilyn Palis et Jean-Michel Bouissier, on évoque le passif de la droite et de l'actuelle majorité. Ça fait 70 ans que le département est à droite, nous dit Jean-Michel Bouissier, qui aimerait bien évidemment faire un sort à cette fatalité qui fait que l'Aveyron est effectivement toujours à droite. Et il présente également les résultats d'une enquête menée par BFM Business sur les critères de gestion dans laquelle notre département est placé à la 76e place sur 95 sur les 95 départements. Il met également en évidence l'explosion de la dette de notre département qui est passée en quelques années seulement de 80 millions d'euros à plus de 190 millions d'euros tout en faisant baisser l'investissement, ce qui témoigne que on n'a pas véritablement, dit-il, une politique efficace en matière départementale.
Un mot du côté de la majorité citoyenne?
Alors du côté de la majorité citoyenne, eh bien Boris Cortijos et Sophie Leroy, évoquent la relocalisation de l'emploi sur le territoire, estimant que les filières courtes et un certain nombre de mesures seraient à même de créer de l'emploi sur notre secteur.
Les portraits de la semaine, c'est la suite de cette revue de titre, toujours les départementales, je l'imagine.
Oui, c'est toujours, la série et puis là, c'est les deux derniers portraits, puisque nous avons voulu, nous avons souhaité ne pas parasiter le débat démocratique qui va être celui du premier tour, la semaine prochaine avec un portrait, puisque évidemment la présentation d'un portrait dans notre édition et juste avant les élections ferait que celui dont on présente le portrait pourrait être avantagé par rapport aux autres.
Donc vous avez fait un tirage au sort de toute façon.
Oui. Et puis on a fait un tir groupé. On a fait un tir groupé cette semaine et on présente les deux dernières candidates sur le canton de Villefranche. Et il s'agit donc de Sophie Leroy, donc candidate du Front de Gauche, et de Sandrine Pérez, candidate du Front National. Voilà, donc c'est front contre front chez les dames. Et donc on a deux portraits. Vous verrez bien évidemment assez différents. C'est évident, mais ne serait-ce que par l'engagement politique qui est lui aussi assez différent. Voilà, donc en tout cas c'est fort intéressant. Vous verrez que les parcours finalement sont ça témoigne un petit peu de. Mais on apprend par exemple des choses assez étonnantes. Par exemple, Sandrine Pérez a commencé à son action militante, on va dire, à la FCPE dans le cadre d'une association qui milite pour les parents d'élèves. Dont elle nous dit ne pas partager finalement la politique. Voilà, donc du côté de Sophie Leroy, on s'aperçoit aussi que c'est quelqu'un qui a un passé vécu parfois difficile, avec des fins de mois qui commençaient le 3, quoi. C'est une de ses expressions. Donc voilà, ça nous permet de voir un petit peu, de mettre de l'humain derrière ces affiches que l'on voit collées un petit peu partout sur les panneaux. Et voilà, donc c'est en tout cas très intéressant.
Allez, c'est la revue de titre, l'essentiel de l'actualité présente. présenté par Éric Lachon. La revue de titre à l'occasion de la parution du jour. On poursuit avec le deuxième cahier, celui qui s'intéresse aux cantons.
Alors du côté des cantons, deux choses notables. D'abord le Moulin du Pivert qui va déménager à La Fouillade. Jean-Michel Caïla est en train de faire aménager l'ancienne usine Guérard qui faisait fabriquer de la menuiserie. Donc c'est un vaste entrepôt qui va lui permettre de se développer et de continuer à faire croître l'activité de cette entreprise qui est spécialisée dans les biscuits avec de la farine bio, des produits un petit peu sur un segment naturel, bio, voilà. Donc c'est quand même un investissement lourd puisqu'il faudra 5 millions d'euros pour installer cette unité dans l'ancien bâtiment donc des menuiseries Guérard. Donc une bonne nouvelle aussi pour tout le secteur de La Fouillade qui va profiter de cette manne et également peut-être aussi de l'emploi qui viendrait à être créé avec le développement de cette entreprise. Et puis toujours dans les cantons, petit coup d'œil sur la confrérie de l'Estoffie qui se réunissait ce week-end à Almont-les-Juny, hein, qui est la capitale mondiale, on va dire, de l'Estoffie, où cette confrérie donc a intronisé 6 nouveaux membres, parmi lesquels Francis Carnaillac, par exemple, donc un membre éminent, un gastronome connu et reconnu. Voilà, petit reportage sur cette confrérie et ses intronisations. Puis on termine avec, bien sûr, un petit coup d'œil sur les activités de ce week-end. Alors un petit peu, c'est pas vraiment une sortie, mais il faut en parler. Il y a d'abord des portes ouvertes qui ont lieu dans les établissements scolaires de Villefranche, que ce soit à l'Institut François Marty, à Saint-Joseph ou au lycée Beauregard, eh bien vous pourrez découvrir les filières que proposent ces établissements qui sont tous réputés pour la qualité de leurs enseignants et de leur enseignement. Voilà, donc un petit tour par ces établissements s'impose. Et puis il y a du côté des sorties, alors un grand rendez-vous avec une pièce de théâtre samedi à l'initiative des espaces culturels, ça s'appelle Oléana. Il y a également Café Débat qui sera proposé par l'Université des Savoirs Partagés, c'est pour lundi au restaurant de l'Aveyron rue La Peyrade. Il y a aussi bien sûr des expositions, des visites guidées en lien avec le patrimoine, un concert avec l'association Dire la Lune, c'est des poèmes chantés par Marie-Jo Mar qui est accompagnée par le pianiste Bernard Niemes, et ça c'est vendredi, donc demain à 20h30 à la chapelle des Pénitents Noirs. Et puis on parlait de l'Estoffinade et il y a aussi un rendez-vous à noter sur vos tablettes, c'est l'Estoffinade de la Maison de l'Amitié. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, c'est juste de la morue que l'on va déguster ce jour-là.
CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.